Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La résurrection du fils de la veuve de Naïm, c'est comme une petite parabole en acte à travers laquelle le Seigneur nous révèle toute son œuvre de salut. Les témoins de la scène eux-mêmes ont perçu la profondeur de ce qui venait de se passer devant leurs yeux stupéfaits. Le récit se termine en effet par ces mots de la foule: un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Aujourd'hui, les exégètes qualifient cette résurrection de réanimation, comme pour minimiser l'action du Seigneur. Mais les témoins de la scène ne se sont pas trompés. Et ils sont saisis qu'à travers cette résurrection, quelque chose d'infiniment plus grand s'accomplissait. Quelque chose qui concerne tout homme, qui nous concerne, chacun d'entre nous, au plus intime, au plus secret de nous-mêmes, car ça touche le mystère de la vie, de la mort et du salut. Certes, Dieu a visité son peuple. En voyant cette pauvre veuve, une femme déjà touchée par la mort d'un être cher, son mari, et maintenant affectée par la perte de son fils unique, et c'était sans doute le seul soutien qui lui restait dans la vie après la perte de son mari, Jésus, nous dit l'Évangile, fut touché de compassion. Pour exprimer l'amour compassionnel de Jésus, le texte original, le texte grec nous dit: il fut ému dans ses entrailles. Comme déjà nous avons rencontré ça dans le cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, hein, qui annonçait prophétiquement la venue du Messie au moment de la naissance, ou de la circoncision plus exactement, de Jean-Baptiste. Et souvenez-vous de ce cantique qui est bien connu: le soleil levant, grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, s'est levé sur ceux qui étaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Zacharie a utilisé une expression biblique courante, notamment chez les prophètes. Par exemple, le prophète Isaïe s'exprime face à Dieu en disant: « Le frémissement de tes entrailles et tes tendresses se sont-ils contenus, car tu es notre Père. » Les entrailles de miséricorde de notre Dieu, c'est une expression courante, une expression biblique qui revient assez souvent. Alors ce cortège funèbre qui sort de la bourgade de Naïm, on peut dire que c'est l'image de toute l'humanité en général, qu'il représente chacun d'entre nous, nous-mêmes en particulier. L'essentiel du christianisme, le principal du message de l'Évangile, tient dans cela. Dieu, ému dans ses entrailles de miséricorde, dans son Christ, dans son Fils, a visité son peuple qui était assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Ça aussi, c'est une expression biblique, on trouve ça, cette expression, les ténèbres et l'ombre de la mort, c'est chez Isaïe. Voilà, Dieu a visité son peuple, il a envoyé son Christ dans sa miséricorde, dans son amour, et pour le ressusciter en lui donnant une vie dont le principe est le Saint-Esprit, une vie imprégnée du Saint-Esprit. Non seulement Jésus, Christ, mais chaque homme aussi est destiné aussi à ressusciter, c'est-à-dire à participer à la vie du royaume grâce à la grâce de l'Esprit-Saint. Alors vous me direz, Ben, ça fait 2000 ans que ça a été dit et le monde ne semble guère avoir changé. Les ténèbres et l'ombre de la mort sont toujours là, avec leur lot de guerres, de meurtres, de violences, de haines que l'actualité quotidienne nous révèle inlassablement. Pourquoi ? Parce que, comme le dit saint Jean dans le prologue de son évangile, il est venu parmi nous, mais les siens ne l'ont pas reçu. Certains, toutefois, l'ont reçu. Ce sont ceux que nous appelons les saints. Cette nuée de témoins qui, depuis 2000 ans, et peut-être même encore avant, nous ont illuminés, illuminent l'Église au long des siècles. Ces saints nous montrent ce qu'il advient de l'homme lorsqu'il est pleinement vivifié, pleinement déifié à la ressemblance de Dieu. Le Christ vient nous arracher à l'ombre et aux ténèbres qui sont celles de la haine, de la violence, destructrice, de l'orgueil. Et il vient nous communiquer son amour par son Esprit Saint. Les saints rayonnent de cet amour qui est la vie même de Dieu communiquée aux hommes. Et par leur témoignage, nous savons que Dieu a réellement visité son peuple. Et ceci doit nous remplir de joie, car c'est la preuve que Dieu nous aime, qu'il a pour nous des entrailles de miséricorde par lesquelles il est venu. Il vient pour nous sauver. Car Dieu n'a pas visité son peuple seulement une fois au cours de l'histoire de l'Église, lors de la vie terrestre du Christ, mais tout au long de cette histoire, tout au long de notre propre histoire. Il ne cesse de nous visiter et de nous envoyer l'Esprit Saint qui répand en nous sa grâce et vivifie notre cœur si nous l'ouvrons à l'amour de Dieu afin d'en briser l'écorce pour que ce cœur de pierre qui est le nôtre, bien souvent, devienne vraiment un cœur de chair. Au cours de nos moments de prière qui parsèment notre journée, au cours des moments où nous lisons la Bible, l'Écriture sainte, et où nous méditons ces textes, et au cours des offices auxquels nous participons, et particulièrement en ce moment, à la Sainte Liturgie, Dieu nous visite pour nous donner la véritable vie, comme il la donne au fils de la veuve de Naïm. Comme lui, nous sommes tous symboliquement des fils ou des filles d'une veuve. Cette veuve, c'est l'humanité tout entière dont nous sommes issus et que nous représentons, une humanité déchue qui n'a pas su ou qui n'a pas pu réaliser les noces mystiques auxquelles le Seigneur l'appelle. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, les noces de l'agneau sont venues, nous dit l'Apocalypse. Car le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, ajoute saint Matthieu. Mais voilà, les épousailles n'ont pas eu lieu et la mère est veuve. Les récits de l'Évangile ne sont pas seulement des faits d'un passé lointain, mais ils nous racontent aussi notre histoire personnelle. C'est en cela d'ailleurs qu'ils sont intéressants. Il faut se mettre à la place des personnages qui en composent les récits. Voilà pourquoi, dans ce passage de l'Évangile, nous pouvons nous situer à la fois comme le Fils mort et ressuscité, ou comme la mère éplorée. D'un côté, nous sommes en voie de trouver la vraie vie par la grâce du Saint-Esprit. Et de l'autre côté, nous connaissons aussi les pleurs du repentir qui marquent le chemin du royaume et que les pères appellent la douloureuse joie, ces pleurs de repentir. Alors, voilà, nous sommes dans les deux cas, sur le seuil, je dirais, du royaume, sur le seuil de cette joie. Et ce qu'on peut dire pour conclure, c'est prions le Seigneur qu'il répande dans nos cœurs la joie de sa visite, qu'elle se répande en nous avec son amour et sa miséricorde. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.